9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Tiens, puisqu'on va parler du jeu vidéo Olive et Tom, c'est un peu du foot et du workshop de Courtrage-Mé. On vous dira tout à l'heure ce que ça veut dire en français courant. Indice, c'est une expo et c'est assez bluffant. Vous retrouverez nos trois mousquetaires, Charles Decamp pour le journal des médias, Eva Rock pour son zapping du lendemain et Bertrand Chamerois pour l'écran de veille. Et comme les trois mousquetaires, ils sont quatre, je n'oublie pas Hélène Manarino et son portrait inattendu de notre invité culture, et il y aura de quoi faire aujourd'hui puisque ce sera la fantasque et géniale Amélie Nothomb, dont le roman est l'un des plus attendus de la rentrée, je l'ai lu pour vous. Mais auparavant, on va détailler la nouvelle formule du magazine Télé Loisirs qui se lance aujourd'hui avec cette question à son rédac chef: quel est le sens d'un magazine papier à l'heure où tous les programmes sont sur le smartphone? Autre invité média, Jules, le dessinateur qui lance aujourd'hui également sur Arte la saison 2 de son animation 50 nuances de grec après le succès quasi mondial de Silex in the City avec des extraits, je ne vous dis que ça, très très drôle. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Le mousquetaire, place au journal des médias. Charles, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Le nouvel habillage d'M6 en exclu, valeur actuelle condamnée de toutes parts, un point sur la rentrée des talks et une série qui va faire parler.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end à la télévision?
Vendredi soir, ils ont plébiscité le premier épisode de la 25e saison de Koh-Lanta. Ils étaient 5,7 millions pour ce lancement, soit 31% du public et 44% des femmes de moins de 50 ans. C'est 1 million de plus que la saison précédente lancée en février dernier et près de 6 points de part d'audience en plus. Pour prendre un peu plus de recul, il s'agit du meilleur lancement de l'émission depuis 2017. Koh-Lanta a fait du mal à Candice Renoir sur France 2 qui a signé un retour en baisse, tandis qu'M6 s'est classé 3e avec la série américaine Boule, globalement stable.
Et samedi,
c'est France 3 qui a dominé avec la fiction en rediffusion Meurtre dans le Morvan, suivi par 4,3 millions de téléspectateurs, soit 21,8% du public. C'est quasiment autant que lors de sa première diffusion en inédit.
Incroyable.
Deuxième, The Voice Kids a repris des forces après son retour timide le week-end précédent. 3,8 millions de téléspectateurs, soit 22,1% du public, en hausse de 500 000 personnes. Troisième, Fort Boyard n'a pas à rougir. L'émission reprend des forces aussi sur une semaine, après 3 millions de téléspectateurs, soit 16,4% du public. Sur la cible des femmes de moins de 50 ans, Fort Boyard talonne The Voice Kids, 24,4% pour le jeu de la 2 contre 26,1% pour le concours de chant de la 1.
Et on en arrive aux audiences d'hier soir, dimanche.
Alors ce dimanche, TF1 a pris la tête avec Taxi 5 inédit. Le film a séduit 5 millions de téléspectateurs, soit 23,3% du public et 32,3% des femmes de moins de 50 ans. France 2 suit avec la comédie française Garde alternée, également inédite. 3,8 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 17,3% du public. Et France 3 ferme la marche en deuxième semaine, la série britannique Les Enquêtes de Van der Valk progresse à 2,6 millions de téléspectateurs, soit 11,6% du public.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une exclusivité, le nouvel habillage sonore de M6.
Ce jingle, vous le connaissez, c'est celui d'M6 depuis 2015, mais demain, exit le oh oh oh.
Vous le faites bien.
C'était moi, en fait. Depuis 2015.
Deuxième scoop.
La chaîne va revoir tout son habillage. Alors évidemment, une partie de cette révolution sera visuelle, mais pas seulement. En avant-première, voici le nouveau jingle d'M6. Deux agences se sont alliées pour concocter cette nouvelle identité. Gédéon s'est occupé du visuel, tandis que La Plage s'est penchée sur la partie sonore. Le compositeur Emmanuel Lipzig de l'agence La Plage nous explique pourquoi tout a été réduit à deux notes.
Un habillage sonore, c'est essentiellement de la signalétique, comme sur une route. Et la façon de comprendre cette signalétique sonore, elle a été totalement modifiée depuis quelques années avec ces smartphones qu'on a dans nos poches et qui émettent des sons de notification toute la journée. Et d'ailleurs, chaque application a son propre son, sa propre notification sonore qui est en réalité une signature de marque aujourd'hui. Et les gens sont maintenant habitués à ces sons très courts qui disent « attention, il va se passer quelque chose ». Alors avec les équipes d'M6, on a emprunté ces nouveaux codes digitaux pour dépasser les frontières de l'habillage classique de la télé. Et la nouvelle signature M6, composée de deux notes chantées, c'est une version plus humaine d'une notification.
Un jingle donc sous forme de notification de portable, donc, mais aussi une autre volonté plus inattendue.
Avec Gédéon, on a une réflexion globale sur le son de l'antenne. Et pas seulement sur le son de l'habillage, mais sur l'ensemble du signal sonore diffusé tout au long de la journée sur M6. Et on s'est aperçu en observant visuellement cette courbe qu'il y avait une saturation sonore et qu'il n'y avait plus de place pour les silences. Et c'est justement ces silences qui permettent de relancer l'attention du spectateur.
Ça fait du bien aussi les silences. Le magazine Valeurs Actuelles a essuyé des critiques tout au long du week-end.
Alors tout a commencé vendredi avec un tweet de la députée La France Insoumise Danielle Obono. Elle a dénoncé un article du magazine qu'elle a qualifié, je cite, de torchon pour avoir publié, je cite toujours, une merde raciste accompagnée d'une illustration d'elle repeinte en esclave.
Alors c'est quoi exactement cet article, Charles?
C'est un nouvel épisode d'une série dans laquelle le magazine imagine des personnalités d'aujourd'hui dans des situations passées afin de mettre en évidence leurs contradictions. François Fillon, c'est par exemple retrouvé téléporté pendant la Révolution française et Didier Raoult en pleine Première Guerre mondiale. Danielle Obono, elle est propulsée en Afrique au XVIIIe siècle et vendue en esclavage. Et l'article est accompagné d'un dessin où elle apparaît avec une chaîne en acier autour du cou.
Et les condamnations se sont succédées.
Absolument, et de toutes parts, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a violemment condamné l'article. Le Premier ministre Jean Castex a dénoncé une publication révoltante, je cite, et l'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron avait personnellement appelé Danielle Obono pour lui faire part de son soutien. En revanche, à part un billet dans Libération, les dirigeants de presse se sont montrés beaucoup plus discrets.
Et comment a-t-on réagi à Valeurs Actuelles?
La direction a d'abord présenté ses excuses à la députée dans un long communiqué. Elle dit comprendre que Danielle Obono ait été blessée par l'illustration qui la représente en esclave, mais a soutenu qu'il n'y avait rien de raciste dans l'article lui-même. Ses excuses n'ont pas suffi. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction, a tenté de se justifier samedi sur le plateau de BFM TV.
Le moment que je situe, ça se passe avant la vente.
Le moment dont vous parlez, c'est un moment où elle se fait mal voir par tout le village à cause de ses idées progressistes. Il y a évidemment...
Non, mais encore une fois, je ne vais pas la citer, mais je l'ai sous les yeux, la phrase, on parle de ses attributs physiques.
D'accord, bah écoutez, non, mais c'est, enfin, je veux dire, bien sûr, c'est pas agréable de lire. Moi, je vous cache pas, j'ai été dérangé en le lisant, mais parce que, encore une fois, c'est une fiction, c'est un roman, c'est une ambiance, c'est une tonalité pour montrer l'atrocité de cette réalité. Donc oui, tout est gênant, rien ne met à l'aise dans ce papier.
Invitée sur la même antenne, Danielle Obono a fait savoir qu'elle réfléchissait à porter plainte contre le magazine, déjà condamné, on le rappelle, en 2015 pour provocation à la discrimination, la haine ou la violence envers les Roms.
Et puis ce lundi, c'est la rentrée des talk-shows.
Cette année, les trois talks majeurs de la télé française ont calé leur rentrée le même jour. C'est à vous sur France 5, Touche pas à mon poste sur C8 et Quotidien sur TMC seront tous de retour ce soir.
Et vous n'allez pas me dire non, il y a du nouveau.
Mais oui.
Évidemment, évidemment.
Et les plus gros changements interviendront sur C8, où la programmation va sensiblement évoluer. Tous les soirs, Cyril Hanouna sera aux commandes de 3 émissions en direct. Balance ton poste à 17h45 pour débattre de l'actualité. Touche pas à mon poste à 18h45 pour parler médias. Et le jeu Apprendre ou à laisser à 20h15.
C'est la plus belle rentrée qu'on ait proposée avec C8 depuis mes débuts. Parce que déjà on propose 3 offres complètement différentes et tout en direct. C'est la première fois qu'on va faire 3 émissions différentes en direct. Une émission de débat, une émission de divertissement TPMP et un jeu. Et déjà, moi, de passer d'un plateau à un autre, je trouve ça fou. Le dispositif, c'est, on est la seule chaîne à proposer ça. On est le seul talk en direct tous les soirs et on continuera à être maintenant un talk en direct, une émission de débat en direct et un jeu en direct. Donc voilà, c'est excitant.
Cyril Hanouna au micro de Louise Bernard.
Alors au sein même de TPMP, il y aura du changement. Mathieu Delormeau, chroniqueur depuis 5 ans, ne sera pas présent autour de la table, mais l'équipe se renouvellera avec notamment un poids lourd de la télé, Patrice Laffont, qui viendra régulièrement participer au débat. Cyril Hanouna promet aussi, évidemment, du divertissement et du rire avec l'arrivée de nouveaux humoristes, Ben H, Luigi Li et Patrick Chanfray, le tout en respectant évidemment les précautions sanitaires.
On a mis des plexis entre les chroniqueurs. C'est vrai qu'on a des distances de sécurité aussi. On aura 50% du public seulement, puisqu'une cinquantaine de personnes, et donc ils porteront des masques. On a mis en place des masques transparents pour quand même qu'on voit les dents des gens, qu'on les voit quand même sourire s'ils se marrent sur l'émission. Et voilà, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, mais déjà on est content de reprendre parce qu'on s'est arrêté pas mal de temps. Content de retrouver le public, masque ou pas masque, on va rigoler.
Le coup d'envoi de cette nouvelle saison de Touche pas à mon poste sera donné exceptionnellement à 17h45 ce lundi sur C8 avec un invité prestigieux.
Le grand Gérard Depardieu, l'immense, qui nous fait l'honneur d'être le parrain de cette saison. Donc on ne pouvait pas rêver mieux. On s'était rencontrés, Gérard et moi, on avait fait une interview, j'étais allé le voir chez lui il y a de ça quelques années. On s'était très très bien entendu. Et cet été, j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone. On a rigolé ensemble au téléphone pendant 20 minutes. Et il m'a dit, tu sais quoi, j'ai envie qu'on se revoie, viens, on se fait un dîner. Je lui ai dit d'accord. Et puis après, je lui ai dit, tiens, tu veux pas être le premier invité de TPMP? Il m'a dit, vas-y, on y va. J'ai envie de délirer avec toi, j'ai envie de déconner. Donc vas-y, je serai là le premier jour de TPMP.
Beaucoup de changements sur C8 ce soir donc. Corollaire, moins de changements sur France 5 alors.
Oui, la rentrée de C'est à vous est la plus sage des trois. En même temps, ça peut se comprendre. L'émission a signé sa meilleure saison l'an dernier en termes d'audience. Le talk présenté par Anne-Elisabeth Lemoine sera juste marqué par l'arrivée d'Émilie Tranenguyen qui remplace Maxime Switek, parti sur BFM TV. Patrick Cohen conservera son édito et le dîner de deuxième partie d'émission, qui n'avait pas pu se tenir depuis mars, sera de retour. Rendez-vous dès 19h sur France 5 avec autour de la table Vanessa Paradis et le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch.
Et du côté de Quotidien sur TMC.
L'émission a teasé son retour ce week-end sur les réseaux sociaux. Yann Barthès a fait appel à l'humoriste Alison Wheeler, qui sera toujours autour de la table cette saison pour une bande-annonce décalée.
De l'info, des interviews exclusives, des corps bien galbés, des courses-poursuites en bagnole, le professeur Raoult nu, vous en aurez pour votre argent. De la baston, des cascades et des explosions. Le tout présenté par Yann Barthès. Le gars, ça fait 40 ans qu'il lâche pas la rampe, on n'en peut plus. Gna gna gna, le ciel de Paris, c'est moi Yann Barthès.
Ça va Alison?
Hein?
Je te dérange pas?
Mais c'est toi, tu me demandes de faire une bande-annonce, alors moi je fais un truc vendeur.
Hey.
Pas de bouleversement dans l'émission, mais quelques évolutions à la marge. L'humoriste Pablo Mira quitte l'émission. La blogueuse Maya Mazorette tiendra une chronique consacrée à la sexualité. La journaliste Ambre Chalumeau parlera culture dans une séquence baptisée La BAC pour Brigade des Affaires Culturelles. Et la journaliste Sophie Dupont parlera politique. Mais c'est le vendredi que Quotidien va le plus changer avec une offre plus magazine. La journaliste Salia Braclia, qui officie désormais tous les matins sur France Info, sera aux commandes d'un rendez-vous intitulé 2022. Le chef Juan Arbalès, qui avait donner des cours de cuisine aux téléspectateurs de Quotidien pendant le confinement, proposera pour sa part une recette liée à l'actu de la semaine. Coup d'envoi ce soir, exceptionnellement dès 18h20 sur TMC, avec Jean-Michel Blanquer, Julien Doré et Valérie Lemercier. Dès demain, l'émission reprend son horaire normal et démarrera à 19h25.
Et on termine ce journal avec une série qui risque de faire parler.
La chaîne américaine HBO a commencé à développer une fiction sur un personnage inattendu, Ivanka Trump, la fille de Donald Trump. Alors que le président américain se bat pour sa réélection, c'est sa fille qui sera au cœur de cette série adaptée d'un podcast très populaire du New York Times. Ce podcast a été lancé en août 2019. Il compte 12 épisodes qui retracent toute la vie d'Ivanka Trump. Elle a 8 ans dans le premier, puis on suit le divorce de ses parents, ses années de rébellion, sa rencontre avec son mari, Jared Kushner. Le podcast s'intéresse ensuite à sa transformation en femme d'affaires, puis son arrivée auprès de son père en tant que conseillère à la Maison Blanche.
Et est-ce que la famille Trump va inspirer, d'après vous, les scénaristes pour les années à venir?
C'est fort probable, parce que les téléspectateurs américains sont très friand de séries inspirées de faits réels. Il y a d'ailleurs déjà des projets en cours et même un qui s'apprête à être diffusé. Ça s'appelle The Comey Rule. C'est une mini-série qui s'intéresse à l'affrontement entre Donald Trump et James Comey, l'ancien patron du FBI, viré en 2017 par le président américain. Diffusion prévue fin septembre sur la chaîne à péage Showtime.
Merci beaucoup Charles Decamp pour votre journal des médias. À demain. Dans un instant, notre info média du jour arrive avec la nouvelle formule du magazine Télé Loisirs. Nouveau ton, nouveau logo, nouvelle couverture. C'est François Wyss, rédacteur chef adjoint du magazine, qui sera avec nous. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Ce lundi 31 août, c'est jour de rentrée pour les médias. Nouvelles émissions à la télévision, on l'a vu avec Charles Decamp, et nouveau magazine pour en parler. Et Télé Loisirs a choisi ce lundi pour sortir sa nouvelle formule. Nouveau logo, nouvelle maquette, mais également un ton plus engagé, je cite. C'est en tout cas la promesse de la nouvelle formule du magazine télé. Pour en parler, nous sommes avec François Wyss. Bonjour François.
Bonjour Philippe.
Vous êtes rédacteur chef adjoint de Télé Loisirs. Alors c'est pas la première nouvelle formule du magazine. Heureusement, les magazines vivent et évoluent au fil du temps. Et en général, depuis 30 ans, j'entends les patrons de presse qui racontent toujours la même chose. Leur magazine sera désormais plus proche des gens, plus pratique, plus aéré, avec une plus large place donnée à l'image. Bon, s'il fallait résumer cette nouvelle formule, sa philosophie, que diriez-vous hors de ces sentiers battus que je viens de citer?
Alors, quand même, on l'a fait plus aéré, puisqu'on a profité de faire une nouvelle formule.
Et pour plus faire proche des gens.
Une maquette plus aérée, plus lisible. Si vous voulez, la presse télé, au départ, c'était qu'est-ce qu'il y a à la télé? Parce qu'on était les seuls à les donner, donc il fallait bien prendre la presse télé pour le savoir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Tout le monde s'est mis à le donner, y compris ma télé, qui me dit maintenant ce qu'il y a à la télé. Donc, on est passé à l'étape 2, c'était l'expertise, c'était qu'est-ce qu'il faut regarder dans tout ce qu'il y a à la télé. Et on est passé à l'expertise un petit peu quand même, l'expert qui délivre son ordonnance un petit peu en blouse blanche, l'expert de la télé. Et avec ce nouveau Télé Loisirs, on veut passer à la troisième étape, c'est pourquoi on a adoré, pourquoi vous avez adoré, pourquoi nous on a adoré, et on va partager cette passion qu'on a de la télé. Donc il y a toujours la grille, il y a toujours l'expertise, mais avec des gros morceaux de passion dedans. Et ouais, c'est ça qui est nouveau.
Si on refait la télé, comme on refait le match, vous dites pourquoi on a adoré, vous annoncez quand même les émissions à venir.
Oui, alors on annonce les émissions à venir. Mais si vous voulez, il y a des grilles pour ça qui pitchent les programmes. Ouais. Mais nous, dans les pages magazines et dans les pages qu'on appelle nous les ouvertures journées, c'est-à-dire la double page qui va avant chaque journée, avant le lundi, le mardi, le mercredi, on va faire vivre la passion parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'on voyait très peu dans les grilles des magazines et le nôtre comme les autres, que les journalistes de presse télé, c'est avant tout des téléspectateurs. Quand on rentre chez eux, ils enlèvent leur blouse blanche d'expert, on est sur le canapé, on est autour de la table avec des amis, et en fait, ce qu'on a envie de faire, bah, c'est on a envie de regarder Koh-Lanta. Moi, je connais des gens à la rédac, le vendredi soir, quand il y a Koh-Lanta, on va pas les déranger parce qu'ils sont là pour personne. Il y en a d'autres, leur passion, ça va être les séries de HBO qu'on voit sur les plateformes OCS ou Canal, donc tout ça, on en parle, mais ça peut être aussi j'adore Joséphine Ange-Gardien, j'adore Les Routes de l'Impossible. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise passion, c'est aussi ça, Télé Loisirs, c'est qu'on est ouvert aux communautés, à toutes les communautés. Nous, on donne notre avis, et puis les téléspectateurs, ils vont donner leur avis, et puis on va consulter des experts. Et l'idée, c'est un petit peu sur l'expertise d'amener la passion des uns et des autres.
Passion qu'on entend à votre voix dans La Promesse. Vous annoncez, je cite, un ton plus engagé. Qu'est-ce que vous entendez par ton plus engagé? Ça veut dire que vous n'hésiterez pas à critiquer un programme télé?
Eh bien, ton plus engagé, par exemple, dans le premier numéro, Koh-Lanta a démarré vendredi. Il y a un papier, c'est pour ou contre Koh-Lanta, pour ou contre les équipes régionales dans Koh-Lanta, parce que c'est grosse innovation de cette année, les quatre équipes régionales.
Bah ça, c'est pas engagé, parce qu'engagé, c'est dire je suis pour ou je suis contre. Bah
alors attendez, Philippe, vous me laissez
là,
pas finir.
C'est un débat démocratique, ça.
Philippe, vous me laissez pas finir. Donc il y a des pour et il y a des contre. Ouais.
Mais
il y a.
Je précise que j'ai pas pu lire le magazine, puisque moi j'arrive à 6h au bureau et que le magazine n'était pas sorti. Je précise ça à nos auditeurs.
Alors je précise que je vous en ai amené un, donc voilà, du coup vous l'avez, vous allez pouvoir le feuilleter et vous en servir toute la semaine en regardant ce qui nous a passionné. Mais si vous voulez, non, il y a des fois, par exemple, on va dire dans les pages, pourquoi on a adoré les plus et les moins d'un film, le truc à retenir. Par exemple, je vous prends un exemple. Prochainement, dans Envoyé spécial, il y aura un sujet sur les vélos électriques.
Ouais.
La presse télé classique, on aurait dit, ce soir, vous verrez les vélos électriques, avec un reportage formidable, très bien. Nous, on va vous dire le chiffre, c'est qu'en 2050, il y aura 1 million de vélos électriques en France. Donc, on focus sur un point, on donne un avis, on dit ça, ça nous plaît, ça bof, ça, la musique est bien, voilà. Et à partir de là, les gens vont pouvoir se faire leur opinion. On leur impose pas notre point de vue, mais on leur propose notre point de vue.
Vous avez peur de vous fâcher avec certaines chaînes ou pas du tout?
Oh bah déjà, certaines, des fois...
vous êtes fâché avec tout le monde, en
gros. Chanchon pour un truc ou un autre. Non, mais ça fait partie de la vie. Vous le savez très bien, Philippe. Ouais. Vous travaillez dans ce domaine aussi. Les fâches s'arrêtent ou commencent l'intérêt mutuel. Non, on n'a pas peur de se fâcher. Surtout, on a des rapports avec les chaînes et on continue à en avoir. Mais j'allais dire, nos premiers interlocuteurs, c'est nos lecteurs. Et c'est avec eux qu'on veut renforcer la complicité.
Et ce qui me fait marrer, c'est évidemment, quand on imprime un journal, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et donc là, par exemple, il y a une page 8. Téléfoot, coup d'envoi réussi. Le nouveau diffuseur du foot français a évité les bugs de lancement. Pas de bol, tout s'est arrêté hier soir.
Oui.
Tout a planté à cause d'une boîte américaine, il faut le préciser.
Mais hier soir, ce n'était pas le lancement.
Voilà,
le lancement,
je sais. En tout cas, c'est assez marrant de dire ça. Il y aura des experts, des fans. Là, vous avez mis en couverture de ce premier numéro, plutôt du premier numéro de la nouvelle formule, Grégory Lemarchal. Ça veut dire que vous avez aimé Pourquoi je vis, le téléfilm de TF1 consacré aux chanteurs.
Absolument.
Ou est-ce que vous l'avez mis parce que c'était vendeur?
Ah non, on l'a mis parce que c'est quelque chose qui va intéresser du monde et parce que nous, on a bien aimé. Si on ne l'avait pas aimé, on ne l'aurait pas mis, tout simplement. C'est-à-dire, ce n'est pas Grégory Lemarchal qu'on a mis en une, c'est le comédien qui joue Grégory Lemarchal, que personne ne connaît encore, qui s'appelle... Ben voilà, vous avez été vous-même pris...
Déjà, moi j'ai une maladie, je ne reconnais pas les visages, mais alors c'est la ressemblance est vraiment frappante.
Oui, et ça ne s'arrête pas à une ressemblance de visage, il s'appelle Michael Lumière, vous allez le découvrir, et d'ailleurs c'est lui qu'on a interviewé dans ce premier magazine, parce que c'est l'exemple même de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, on a eu waouh, un coup de poing en voyant cette fiction sur Grégory Lemarchal. On imagine que beaucoup de monde va être intéressé par ce téléfilm, mais nous, on amène des choses en plus. On dit, on a aimé, attention, téléfilm événement, ne le ratez pas, c'est un événement à ne pas manquer. Et voilà, on vous donne des éléments avec le comédien qui réalise cette performance d'acteur.
Dans ce studio, c'est pas un comédien, c'est le vrai François Huys, rédacteur-chef adjoint du magazine Télé Loisirs, qui lance sa nouvelle formule aujourd'hui. On en parle encore, parce qu'on a encore plein de questions techniques à vous poser.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et je précise à nos auditeurs que lundi, nous recevrons le comédien qui joue Grégory Lemarchal, Michael Lumière, et le papa de Grégory qui sera ici avec nous. Techniquement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle formule ? Pour les pros qui nous écoutent. Nouveau logo, nouveau format, qu'est-ce que vous avez changé?
Alors le logo, il a un petit peu évolué parce qu'on veut qu'il soit plus visible en kiosque. Les autres magazines, ils ont des carrés autour. On a rajouté un halo blanc en dessous. On n'a pas changé la couleur.
Juste un tout petit mot, c'est combien la part de vente en kiosque? Je crois que la presse télé, c'était surtout des abonnements.
Oui, alors nous, en gros, on vend 600 000 exemplaires et 2/3 par abonnement.
D'accord.
Alors, pendant la pandémie, on était bien contents d'avoir ces abonnés, je peux vous le dire.
Bah, évidemment.
Et avec la crise de Prestalis aussi.
Ouais.
Voilà. Et donc ce logo, si vous voulez, il se voit mieux en kiosque. Et on n'a pas changé les couleurs parce que ça, alors c'est très intéressant, c'est que les lecteurs, ils sont attachés. Nous, on dit, on va le faire évoluer, évidemment, porter sur des idées. Et puis en fait, il faut quand même garder ce jaune et ce rouge. Une certaine typo, elle a évolué subtilement, mais ça, il faut vraiment être dans la machine.
Le jaune de télé et le rouge de loisirs.
Ah, absolument, parce que c'est deux magazines. Non, non, ça c'est un fondamental qu'on n'a pas perdu, c'est-à-dire la télé, les loisirs et qui s'adresse à toute la famille.
Le prix ?
1,50, inchangé. On vous en donne une nouvelle formule. Je suis en marchant, on vous donne une nouvelle formule, mais c'est vrai, pour un prix inchangé.
Pourquoi il fallait changer ?
Bah, il fallait changer parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on reste à l'étape « qu'est-ce qu'il y a ce soir ?» et je vous livre une expertise de haut, on n'est plus en phase avec l'époque. C'est-à-dire que peut-être tous nos lecteurs ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui on est à l'ère des débats, de l'émotion, des points de vue. Et il faut être avec cette ère du temps pour capter des nouveaux publics, des nouvelles communautés, sans perdre les anciennes. Et ça, c'est très important. Si vous voulez, je vais vous prendre un exemple,
Allez-y,
Philippe. Si je vous aime beaucoup, donc je vous invite à dîner chez moi.
Super.
Si vous venez dîner chez moi,
ça me fera un dîner.
Et puis il sera très bon en plus. Comme vous savez que je suis dans la presse télé, vers le dessert, vous allez me dire, ah ben François, alors qu'est-ce que je regarde à la Finlande, qu'est-ce que je regarde à la télé cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut pas rater? Je vais pas vous dire. Vous êtes assis à côté de moi à table. Je vais pas vous dire. Eh bien, Philippe, demain il y a une superbe série magnifique en 10 épisodes qui démarre sur Canal Plus avec un casting. Je vais vous dire. Alors tu sais, Philippe, il y a une série, c'est une tuerie parce qu'il y a une actrice. Oui, tu l'as vue dans des rôles, tu l'aimais pas trop, mais là, elle crève l'écran. Et puis alors, là, surtout, tu arrives bien à l'heure. Parce que la scène, tu vois, la scène d'entrée, c'est un truc, c'est un grand spectacle, c'est vraiment incroyable. Ben, c'est un petit peu ça qu'on va faire dans le nouveau télé-loisir. C'est-à-dire que nous, on a eu des coups de cœur, on est passionnés, on va les livrer et les gens pourront les livrer. Et comme on a un site internet puissant, l'idée c'est aussi que les débats se prolongent aussi sur internet.
Et vous engueulez pour de vrai ? Parce que là, vous parliez de Koh-Lanta tout à l'heure, il y a une double page, la rédaction se déchire sur Koh-Lanta, les quatre terres. Vous êtes tous engueulés, tout le monde s'est tapé dessus.
Bah alors en ce moment, on est un petit peu tous à distance, mais oui, alors on s'est engueulés par visio. Ouais. Mais oui, mais bien sûr, on a des vrais débats, bah, ça va pas jusqu'au pugilat, mais on débat vraiment sur
et
la
alors,
télé.
Il y a vraiment du vrai placement publicitaire quand même, je dois dire, ça me fait marrer. C'est comme Koh-Lanta, c'est interminable, ça commence, ça fait toute la soirée. Il y a quand même une pub pour des paquets de cacahuètes, pour les gens qui ont la dalle devant Koh-Lanta. Magazine papier, mais vous l'avez dit, il y a votre site.
Oui, alors nous on fonctionne sur deux jambes, mais depuis très longtemps, parce que le bimédia chez nous c'est pas un vœu pieux, hein, c'est déjà depuis des années qu'on s'y est mis. Et si vous voulez, on a quand même, tenez-vous bien, tous les jours 4 millions de visiteurs uniques hein, sur notre digital. Et pour les plus anciens qui nous écoutent, à la grande époque de France Soir, bah, c'était ça, ça se chiffrait en millions. Et c'est vraiment énorme, on est de loin la marque télé numéro 1. Et ça, c'est quand même très important pour nous parce qu'il y a...
Je vous pose juste cette question parce que chaque fois que quelqu'un vient ici dans ce studio et qu'il parle d'Internet, il est numéro un. Il a tout le temps plein de façons de compter, comme après les émissions politiques.
Non, c'est pas tout.
Vous êtes vraiment Téléloisirs, en quoi êtes-vous numéro un sur Internet?
Ah bah, je vous l'ai dit, 4 millions de visiteurs uniques par jour, 100 millions de vidéos
personne
vues par mois.
Personne ne fait ça.
Dans l'univers des marques télé et des médias, on est numéro un, c'est clair.
Ouais. Sur le site, il y a des onglets sport, Netflix, Canal+, Disney. Pour quelles raisons?
Eh bien parce qu'il y a des communes, je vous parlais tout à l'heure des communautés, elles existent sur, donc on veut les développer sur ce qu'on appelle le print, hein, le magazine papier là que vous avez en main, mais sur le digital c'est encore plus vrai, il y a des communautés. Donc si vous voulez, il y a le mainstream, il y a ce qui s'adresse à tout le monde, et puis après on va cibler des communautés pour leur donner des mini-sites qui leur permettent d'avoir directement les informations qui les intéressent, sur le sujet qui les intéresse.
Mais question un peu perfide, pourquoi on irait lire des articles sur le sport, sur Téléloisirs?
Ben parce que le sport passe à la télévision et puis parce que c'est un des événements télévisuels qui rassemble. Et nous, on est aussi une marque qui rassemble puisqu'on capte tous les publics.
Mais c'est sur le sport à la télé, vous gardez cet angle. Vous ne faites pas des papiers sur l'équipe de France de foot.
Alors,
vous faites des papiers sur le traitement.
C'est jamais tout blanc, tout noir, cher ami. Alors évidemment, notre point d'entrée, c'est la télévision. Mais après, on va parler du sport, parler des séries, c'est pareil. On peut vous raconter, par exemple, il y a beaucoup de téléfilms en ce moment sur les faits divers. On peut très bien vous raconter un fait divers, donner des éléments pour les gens qui vont regarder, mais aller au-delà du téléfilm ou de la fiction qu'on va voir à la télé, c'est pareil.
Et en parlant de faits divers, on est ravis d'apprendre les chiffres encore de Society, avec son enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès, qui donne espoir à tous les éditeurs. Vous avez intégré une nouvelle page de grille de programme dédiée aux plateformes Netflix, Amazon Prime, Canal+, Disney, OCS. Il y a deux lectures. On peut se dire que la télé linéaire s'est dépassée. On peut se dire aussi qu'une page, c'est pas foufou, vu les nouveaux usages.
Alors déjà, c'est pas une page, c'est une double.
Ouais, une double.
Parce qu'une page, on en faisait déjà.
Vous avez raison, une double.
Et on est le magazine télé qui en donne le plus. Et là, encore une fois, je fais pas mon VRP. C'est réellement une double page. Et ça va aller encore plus loin. Je peux pas vous en dire plus, mais ce n'est qu'un début. Mais l'idée, justement, c'est d'ouvrir sur ces plateformes avec notre nouvelle façon de voir. Si vous regardez cette double page, c'est on a adoré ça. Il y a la série du scénariste incontournable qui revient. Et puis, l'idée, c'est on ne va pas faire un journal non plus que pour des bobos qui ont 25 ans. On n'oublie pas la dame qui peut-être d'ailleurs son fils va voir Netflix. Elle-même, elle va aller pour la première fois sur Netflix. Et en même temps, à côté, elle va aimer Meurtre en Lorraine. Ce n'est pas incompatible.
C'était Meurtre, je ne sais plus où, qui a cartonné encore hier soir en rediffusion.
Et bientôt qui est en rediffusion de Meurtre en Lorraine avec l'excellent Stéphane Bern.
Merci beaucoup François Wyss, je rappelle que vous êtes rédac chef adjoint de Télé Loisirs, la nouvelle formule qui sort dans les kiosques à partir d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Jules, le dessinateur, sera avec nous pour la saison 2 de sa série animée 50 nuances de grec. C'est sur Arte et c'est dans ce studio. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Jules.
Bonjour.
Il est en train d'enlever sa veste dans ce studio. Vous êtes dessinateur, vous êtes scénariste. C'est vous notamment qui avez repris Lucky Luke, on en dira un mot. Le grand public vous connaît à cause de votre série animée Silex and the City, tirée de vos albums. C'est une série sur Arte, puis de 50 nuances de grec. Ça avait très très bien marché la saison précédente, au point que la deuxième saison démarre ce soir sur Arte à 20h50. Et sur arte.tv, on peut déjà voir tous les épisodes. Alors les deux séries sont à la fois parodiques et anachroniques. C'est-à-dire qu'elles parlent de l'actualité d'aujourd'hui. Pourquoi être passé de Cro-Magnon au dieu de l'Olympe? Vous vouliez changer pour changer, ou est-ce que ça permet de dire encore plus de choses?
Ça permet de dire des choses différentes. À vrai dire, moi je me souviens, étant petit, il y avait une série qui s'appelait Il était une fois l'homme.
Je me souviens très
C'était
bien.
C'était un dessin animé culte, et puis on traversait l'histoire comme ça, avec une famille.
Avec un
c'est un peu la même chose. Donc là, on a un peu progressé dans le temps, mais c'est vrai que en fait, l'antiquité grecque, cet héritage gréco-latin, il y a tout ce qui nous concerne aujourd'hui. Il y a les questions de harcèlement et de viol, les questions de consommation, les questions de faits divers, Eros, Thanatos, quoi. En fait, le sexe et la mort, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans notre époque aujourd'hui? Et puis, en fait, en plus, les Grecs, ils ont tout inventé. Pandémie, cataclysme. En fait, en gros, ils ont prévu 2020.
Même pandémie, c'est déjà un mot grec.
C'est ça.
Vous parliez d'Eros, ça fornique dès la première seconde du générique. 50 nuances de grec, donc saison 2, ça démarre ce soir. Et ça commence très fort. Le premier épisode s'appelle la Greek Pride. Ça démarre comme ça. On est au sommet de l'Olympe, on est chez le couple Hermès-Hermaphrodite, ils sont sur leur lit, et Hermès est en train de taper quelque chose sur son ordinateur portable. Extrait.
Hermès, mon chou, tu voudrais pas qu'on se fasse un petit voyage en amoureux? Ça fait une éternité qu'on n'est pas partis en week-end tous les deux. T'as pas fini avec tes messages, là? J'en peux plus, moi, d'un mec qui peut jamais décrocher de ses 40 boîtes mail.
Eh, mais ça va pas? Je suis le dieu des messageries et de la communication. Faut bien que je bosse un peu de temps en temps, quand même.
Oui, enfin, on est tous le dieu ou la déesse d'un truc, hein. Moi, je suis la déesse de la beauté. Je passe pas ma vie à faire des tutos maquillage ou coiffure sur ma chaîne YouTube.
Dis donc, t'es relou ce matin, toi.
Et toi, tu penses qu'à toi et à tes petites sandales et tes petites ailes? La mythologie pourrait s'écrouler? Tu serais encore en train de regarder tes alertes Facebook et Twitter.
J'adore Hermès, dieu des messageries. Alors, c'est drôle, mais ça va plus loin que ça, parce que le couple a un problème. Leur enfant est adolescent, il va pas très bien, c'est pas n'importe qui. Leur enfant, c'est Hermaphrodite. Il vit tout nu. C'est d'ailleurs le seul qui est tout nu dans la série. Il a un zizi de petit garçon, mais des seins de femme. Pourquoi vous intéressez-vous à lui?
Bah parce que en fait, toutes ces transformations dans le genre, toutes ces questions aujourd'hui qui nous agitent beaucoup, qui nous paraissent très très modernes, qui sont qui déroutent un peu les sociétés à travers le monde, bah les Grecs, ils avaient déjà une vision de ça. Si on regarde les Métamorphoses d'Ovide, ils racontent vraiment la façon dont on change d'une identité à l'autre, cette fluidité-là un peu bizarre, ils l'avaient. Alors c'est marrant de voir ça, c'est-à-dire les gens qui sont choqués, les gens au contraire qui trouvent ça naturel, à travers justement la Greek Pride. Et c'est vrai que l'homosexualité de la Grèce dans la mythologie, etc., était notoire. Il y avait une espèce de... Voilà, les dieux, les héros ne voyaient pas les catégories comme on les voit aujourd'hui.
Mais il y a même cette réplique, je vous interromps, il y a même cette réplique. Il y en a un qui dit à l'autre, ils sont sur des chars de la Greek Pride, et il dit ce qui est génial, c'est qu'on a la mythologie la moins discriminatoire envers toute la communauté LGBT.
Bah oui, parce que c'est Achille, hein, le compagnon d'Ulysse, qui lui avait une petite histoire avec Patrocle, son cousin, et puis qui discute avec le dieu Pan aussi, qui n'avait pas vraiment de problème à draguer à la fois les femmes et les hommes. Donc en fin de compte, bon, de même que les questions questions de PMA, etc. On peut les traiter à travers la Grèce. C'est la procréation mythologiquement assistée. Bah oui, quand on est dans la cuisse de Jupiter ou quand on sort du crâne de Zeus, ou, ben c'est vrai que c'est un petit peu bizarre hein, comme processus.
Alors, il est beaucoup question d'Internet et de Netflix, puisqu'il est question du 21e siècle. Netflix et Gregflix. Il y a un gars qui regarde Greg of Thrones. Alors, il ne se commande pas des pizzas, il se commande des moussaka. Le nom de la box, j'adore, c'est la box de Pandore. Vous êtes bien amusé avec les noms.
Oui, mais en fait, c'est-à-dire que c'est mon principe très souvent, c'est-à-dire on change un seul terme comme ça pour le transposer et tout d'un coup, bah, on se pose des questions sur ce qui nous paraît très très évident. C'est vrai que nous, on regarde des séries, c'est vrai qu'on on va dans tel ou tel supermarché, mais là, les gens, ils vont faire les courses au centre commercial Parthénon 2, ils regardent Gregflix.
Et même les titres des épisodes, qu'est-ce qu'on a fait au bon Zeus, Catherine et l'Iliade, le plan A3, mais ouais. La ville de Troyes.
Ah oui, plan A3, oui, voilà, voilà.
Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que j'ai retrouvé une interview de vous de 2012 dans laquelle vous disiez je déteste les calembours.
Oui, alors c'est pas des calembours, vous voyez, parce que non, c'est-à-dire que pour le coup, moi je suis un peu un adepte, j'adore les théories psychanalytiques justement et ce que ça raconte finalement de notre inconscient. Et en fin de compte, de prendre un mot pour un autre, de changer ça, c'est pas seulement du calembour, il faut que ça ait du sens. Le calembour, il y a une dimension un petit peu gratuite, comment vas-tu, yo de poil. Bon, ce truc-là qui est un peu à l'ancienne, moi ça me correspond pas tellement. En revanche, plan A3, si vous voyez, c'est pas exactement un calembour, c'est-à-dire on orthographie différemment le mot, et ça raconte quelque chose justement de cette sexualité débridée qui était sans arrêt en regard de la guerre. Et effectivement, quand on le raconte, il y a un épisode, c'est ça qui est avantageux parce que c'est adapté de bande dessinée, donc il y a deux tomes de 50 nuances de grec, mais quand on passe côté audiovisuel, en mini-série comme ça, on a des possibilités de parodie, d'utiliser le son, d'utiliser des références audiovisuelles. Et par exemple, Catherine et l'Iliade, c'est la façon dont Alex Lutz et Bruno Sanchez, qui sont venus jouer dans la série, racontent la guerre de Troie en 3 minutes.
Qui sont eux-mêmes, qui incarnent Catherine et l'Iliade, la série qui était sur Canal+. Dans l'épisode 22, Ulysse et Pénélope vont dîner chez les Crétois, en l'occurrence chez Pasiphae. Et là, c'est un double exercice. Tout est dans Alexandrin. Je dis ça pour ceux qui vont passer le bac cette année. Alexandrin, c'est un verre de 12 pieds. Extrait.
Ariane, Phèdre, Hippolyte, où sont les autres garçons?
Thésée est en retard.
Comme d'habitude, d'ailleurs.
Un verre d'huile d'olive?
Un doigt, ça va, merci.
Et toi, ma Pénélope?
Seulement du tzatziki.
Hippolyte est toujours vissé à sa console.
Putain, laisse-le tranquille.
Oh, c'est bon, je rigole. Mais il faut bien avouer qu'il n'est pas très sociable.
Allons, voilà Thésée. On va passer à table.
C'est pas trop difficile, la vie en labyrinthe?
J'ai 8000 mètres carrés, je vais pas déposer plainte.
Mais chier, j'en ai ras-le-bol de votre hypocrisie!
Ça y est, Phèdre pique sa crise.
Qu'est-ce qui te prend, chérie?
Vous voulez apparaître comme la famille parfaite, mais en réalité, c'est la honte de la Crète! Ariane se fait larguer dans le genre vieux Kleenex, alors que je suis sa sœur! On me refuse son ex!
Il y a des références.
Ah bah oui, c'est à la fois la tragédie, grande tragédie classique. On a Phèdre, Hippolyte. Il y a un épisode sur Antigone et c'est très marrant d'utiliser un alexandrin pour faire un truc qui est vraiment du théâtre de boulevard.
Et on refuse son ex, j'adore.
Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que j'entends ses voix et moi, ce que je surkiffe de cette saison 2, c'est le casting de péplum qu'on a en fait avec les comédiens. Parce que là, on entend la voix Ariane, c'est Leïla Slimani. Pasiphae, c'est Audrey Azoulay qui dirige l'UNESCO aussi, qui était ministre de la Culture. On a entendu Félix Moët, Joséphine Demot tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment une excitation incroyable pour un dessinateur.
Je rajoute Valérie Lemercier, Guillaume Gallienne, Bruno Solo, Alex Lutz, vous l'avez dit, Stéphane Bern de La Maison, Manoukian, Camélia Jordana, Psatoussi, Alessandra Sublet, Léa Drucker, Sarah Giraudot, Philippe Torreton, Mathieu Noël, Océan, Christophe Barbier, Patrick Peloux, Yannick Jadot. Non, je t'ai plus. Vous les payez ou ils font ça gracieusement?
C'est vertigineux. Alors, ceux qui sont comédiens, on les paye, mais on les paye normalement, comme un comédien débutant. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui adhèrent au projet, qui trouvent ça marrant, qui connaissent cette écriture, et parfois qui me suivent depuis de longues années, parce qu'il y en a qui apparaissaient déjà dans Silex and the City. Mais le principe de faire venir des gens qui ne sont pas comédiens, justement, comme là, par exemple, cette année, Yannick Jadot, il joue, en fait, c'est une mise en abîme, parce qu'il joue Nicolas Éole, le dieu du vent et des énergies renouvelables. Donc, en fait, il joue Hulot, version dieu de l'Olympe.
Et il annonce sa démission, mais vous démissionnez pas, vous restez avec nous. Jules avec nous, le papa de Silex and the City et de 50 nuances de grec dans ce studio. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On est en compagnie de Jules qui signe. J'allais dire Silex and the City, non, 50 nuances de grec, la saison 2 qui démarre ce soir à 20h50. Ce sont des petits films d'animation de 3-4 minutes sur Arte, c'est absolument savoureux. On parlait des voix, vous êtes fait plaisir avec les voix, avec les accents. Dans l'épisode 23, on peut entendre le témoignage des femmes de la mythologie avec les sirènes, comment dire, en cagole.
Il se passe quelque chose dans la mythologie gréco-latine. Grâce à la libération de la parole, les femmes sont en train de mettre fin à la culture du harcèlement et du viol enraciné dans la civilisation classique.
Grâce à quelques nymphes et quelques mortelles courageuses, on a enfin pu mettre des mots sur ce scandale.
Moi, je voulais pas coucher avec Zeus, mais il s'est transformé en puits d'or et il est entré de force dans ma chambre.
Apollon a essayé de me violer et j'étais obligée de me transformer en laurier. Alors, au début, j'avais honte, je me disais « Daphné, qu'est-ce que tu vas raconter à tes copines ?»
Il faut que les hommes arrêtent de rejeter la faute sur nous. Genre, elle m'a provoquée, c'est elle qui est venue tourner autour de mon bateau.
Au-delà du fond, vous êtes fait plaisir avec l'accent du Sud, mais ça dit des choses.
Oui, ça dit des choses. À vrai dire, une sirène comme ça qui était sur son rocher, je me suis dit, bah, c'est une fille du bord de mer. Donc j'ai imaginé tout de suite Brigitte Bardot, Alma d'Arc. Et en fin de compte, c'est très rigolo, justement par rapport à la bande dessinée, c'est on peut énormément jouer à la fois sur les timbres des voix et sur les accents. Par exemple, Échille aussi, qui raconte les Atrides, Agamemnon, toutes ces histoires. Jean-Claude Échille, en l'occurrence, le personnage, lui, il a un accent du Sud-Ouest. Et il raconte un peu comme un chroniqueur judiciaire, il dit « Oh voilà, Antigone, elle a enterré son frère contre l'avis de son oncle, c'est ça le drame classique célèbre. » Il dit « Ouais, elle adore faire des trous, c'est un vrai chien de truffier cette gamine.
» Vous connaissez les dialogues par cœur. Dans le genre référence, il y a aussi Oedipe qui se fait psychanalyser, qui dit « J'ai parfois envie de coucher avec ma mère et tuer mon père, j'adore. » Et dans quelques épisodes après, il y a le jury, une sorte de nouvelle star qui fait passer des candidats, et il y a Oedipe qui chante dans NTM « Nique ta mère » au sens propre.
Oui, voilà, c'est Assassin de Polynice à la place de Assassin de la Police. Donc ça mélange à la fois la culture classique et la culture pop, le rap, les publicités, les jeux vidéo, les séries.
Et les gilets jaunes. Pourquoi vouliez-vous parler des gilets jaunes? J'ai lu une interview de vous qui dit « Je me suis cassé la tête pour savoir comment traiter le sujet ».
Oui, parce que le principe, moi, de mon travail, à la fois Silex and the City et 50 nuances de grec, c'est de faire comme une espèce de saga de notre époque contemporaine, mais vue par le prisme d'une époque antérieure. Et donc là, comment traiter avec la mythologie cette question sociale qui était tellement importante depuis maintenant plusieurs années, puis ça continue encore aujourd'hui. Et donc, je me suis dit « Les gilets jaunes, c'est pas évident ». Et puis tout d'un coup, j'ai pensé à une analogie avec le mythe de la toison d'or et de Jason et les Argonautes. Je me dis, ben oui, c'est les toisons jaunes, le mouvement des toisons jaunes. Alors, ils bloquent les ronds-points à la sortie de Corinthe. Ils font chier les dieux et tout, parce que justement, ils en ont ras-le-bol de l'inégalité homme-dieu, parce que les dieux, ils ont des palais en or, ils boivent de l'ambroisie à tous les repas. Et eux, ils sont en train ils galèrent pour boucler les fins de mois. Et donc, cette crise sociale-là, sans vraiment prendre parti, mais plutôt en donnant la parole comme un observateur. Moi, mon travail, c'est un petit peu... Moi, je pense que je suis vraiment, en tout cas, ce que je revendique, c'est d'être l'héritier plutôt des moralistes du XVIIIe siècle. Pour moi, mes exemples, c'est La Bruyère, c'est La Fontaine. Ce sont des gens qui, justement, ont dépeint leur époque en... Alors, l'un c'était avec des animaux, l'autre en prenant des typologies, comme ça, des archétypes sociaux, les caractères. Ça me passionne parce que c'est... À la fois, c'est pas vraiment dans le jugement, en même temps, c'est hyper cruel, hyper juste, moi, c'est mes idoles. Donc, en fin de compte, j'essaye de faire, dans une façon un peu marrante, en dessin animé, avec des moyens d'aujourd'hui, ce que pouvait faire, c'est-à-dire dresser un miroir à la société. Donc, les toisons jaunes, c'est vraiment ça.
La Bruyère à La Fontaine, c'est pas rien comme référence. Alors, dans le générique, très modestement, Jules, vous êtes crédité sur une seule ligne, graphisme original. En vrai, vous avez fait quoi ou faites quoi dans la série?
En fait, c'est une série de Jules, d'après la bande dessinée de Jules, écrite par Jules, graphisme original. Voilà, Jules.
Faites...
Donc, c'est complètement mégalo.
Non, mais votre nom apparaît qu'une seule fois. Ah, donc, c'est pour
possible.
Ça. Vous faites quoi en vrai?
Je vais les enquêter.
Vous êtes en studio, vous êtes... comment ça se
oui,
passe?
En fait,
vous surveillez tous les dialogues.
Mes albums de BD, ça, première chose. Ensuite, j'écris comme une dramatique, comme un sitcom. Donc, en fait, quand vous regardez les scénarios.
L'auteur.
Voilà, je suis l'auteur, ça pourrait être filmé avec des personnages live.
D'accord.
Et ensuite, je crée des personnages, mais on est quand même, c'est un travail d'équipe, on est 150.
J'ai bien compris.
Et ensuite, moi, ce que j'adore faire, et on l'a peut-être entendu justement avec les petits extraits que vous avez passés, c'est diriger, je fais le casting, je propose aux différents comédiens, aux invités et tous les rôles, et je les dirige
et
dans le studio.
Vous dirigez les voix.
D'une férule quand même de fer. Et en même temps, il y a des gens qui proposent des choses magnifiques. Valérie Lemercier, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, on allume le micro, tout ce qu'elle propose est génial. Et en général, j'aime bien l'enregistrer avant tous les autres personnages parce que c'est elle qui donne le tempo.
Est-ce que la série est diffusée sur Arte côté allemand?
Oui, alors ils ont un doublage allemand qui est très bien fait. C'est pour ça qu'il faut rendre les épisodes très tôt, parce qu'ils passent l'été à faire le doublage allemand.
Parce que les gilets jaunes, ça n'a pas existé en Allemagne. Il y a beaucoup de choses qui sont franco-françaises.
Ça a légèrement existé, mais en tout
l'interview,
cas...
L'interview, la démission de Nicolas Hulot sur une radio concurrente, bim, ça n'a pas existé en Allemagne.
Ça, c'est clair. Mais en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une plus-value pour les spectateurs français, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui les relient à notre actualité. Mais c'est vrai qu'en fait, ces questions d'environnement, imaginez le dieu Éole, qu'on a ras-le-bol, que l'Olympe passe au tout électricité et que Zeus utilise de la foudre diesel, ça en fait les Allemands ils peuvent très bien comprendre ces problématiques-là, même s'ils n'ont pas le clin d'œil qui fait que bah, c'est les confrères de France Inter qu'on voit dépeints dans la matinale de Grèce Inter et Zeus vient
j'avais
répondre
bien fait
dans
attention,
la matinale de...
J'avais bien fait attention
Olympe
de ne pas les citer, merci.
Olympe numéro 1, hein, y a aussi ça avec Mathieu Noël évidemment qui est pour moi une de mes grandes références. Vous parliez d'Oedipe, c'est Mathieu Noël qui fait la voix d'Oedipe depuis le début, c'est lui qui chante même dans la saison 1 Papa Outé. Bon, évidemment, pour Oedipe, c'est croustillant.
Je reviens à Silex and the City. Je me suis laissé dire que ça allait devenir un film de cinéma. Ça sera de l'animation ou avec de vrais acteurs?
Silex and the City, ça va être un long métrage d'animation avec le même studio qui avait travaillé à l'époque sur Persepolis, le studio qui a fait Avril et le monde truqué, qui est le dessin animé de Tardi. Et donc, moi, j'adore. C'est le studio Je suis bien content. Donc, c'est programmatique, hein, carrément. Et on le prévoit pour le sortir pour Cannes 22. Ça met du temps à faire, hein, un dessin animé. Mais donc, on est bien lancé.
Comme on dit, pas ce Cannes-là, mais l'autre. Et vous êtes également le scénariste de Lucky Luke. Le prochain album, si je suis bien informé, sera le 23 octobre. C'est maintenu avec le Covid, le 23?
Alors, c'est maintenu et probablement, on en reparlera sur cette antenne parce que c'est un peu, ça fait l'effet d'une bombe. Parce que pour la première fois, le thème, c'est Lucky Luke et les Noirs.
Ça va s'appeler Un cow-boy dans le coton. Il y aura des Noirs. Il y en avait des Noirs dans Lucky Luke, mais tout le temps un rôle de passage, un rôle décoratif.
Il n'y en avait presque pas, et c'était des petits figurants qui n'avaient pas vraiment de rôle, et puis de toute façon très stéréotypés, d'une façon qui ne serait plus acceptable et compréhensible aujourd'hui. Donc là, il s'agissait de prendre le sujet à bras-le-corps. On sait que c'est de la nitroglycérine. Il y a des coups à se prendre de chaque côté, mais en même temps, moi j'aime bien ça. C'est-à-dire, voilà, pourquoi pas en parler. L'esclavage, ça n'existait pas dans Lucky Luke. Ben, allons-y, on fonce dedans.
Je précise que vous avez écrit le scénario avant les émeutes qui ont secoué les États-Unis, avant le décès de George Floyd. Le point de départ, c'est un shérif noir qui a réellement existé.
Oui, en fait, c'est un personnage qui en fait, devient l'acolyte de Lucky Luke le temps de cette aventure. Le point de départ, il ne faut pas trop que j'en dévoile, mais Lucky Luke se retrouve propulsé, planteur, esclavagiste par héritage, et il doit se dépêtrer de cette situation-là, et il ne va pas pouvoir le faire tout seul, donc il va avoir besoin de ces grandes figures noires du Far West qui ont existé, et ça, c'était très excitant de se baser sur une base réelle et historique.
Vous disiez que ça peut être une bombe, est-ce que quand on fait un album comme celui-ci, vous avez carte blanche, ou est-ce qu'il faut l'accord des éditeurs, des ayants droit de Lucky Luke?
Ah, c'est quand même une grande discussion, moi j'ai à la fois une énorme liberté, c'est-à-dire j'ai pu faire ce que je voulais, quand j'ai annoncé le thème, tout le monde s'évanouit un petit peu, j'avais fait, il y a deux albums de ça, j'avais fait Un Cowboy à Paris, c'était Lucky Luke à Paris, et précédemment j'avais fait Lucky Luke et les Juifs. Déjà, quand j'avais annoncé ça à l'éditeur, il avait eu les cheveux qui se dressaient sur la tête en disant « Oh là 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 là, ça va être des emmerdes, pas possible ». En fait, pas du tout, ça s'était super bien passé. Fort de cette confiance, ils m'ont laissé faire, mais c'est vrai qu'ils ont un regard très attentif, ils connaissent ça par cœur. Donc à la fois, les Belges ayant droit de Maurice, hein, le créateur de Lucky Luke, et la maison d'édition d'Argo, sont quand même vachement présents. Mais je fais ce que je veux, et ça, je suis vraiment reconnaissant.
Vous faites ce que vous voulez, la preuve ce soir, 50 nuances de Greg, c'est la deuxième saison qui démarre sur Arte, et peut-être pas la dernière, peut-être qu'il y en aura une troisième. Merci beaucoup Jules d'avoir été avec nous sur Arte 20h50 et Arte.tv, c'est en linéaire quand on veut. Merci d'avoir été ici en direct dans ce studio.
Merci, que les dieux vous parlent.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. Nous recevrons évidemment Eva Rock, le zapping du lendemain. Bertrand Chameroy, l'écran de veille spécial Koh-Lanta. Amélie Nothomb pour son 29e roman Les Aérostats qui fait référence à l'Iliade, à l'Odyssée. C'est absolument passionnant. Et puis dans Les Indispensables, un jeu vidéo au parfum nostalgique et une expo d'une trentaine d'étudiants de l'école Courtrage-Mais au Palais de Tokyo. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.